Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Beauty Pool, In Treatment et En Analyse. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Ah, voilà. Allez, asseyez-vous. Bon, Monsieur Lévy, vous êtes le créateur d'une série israélienne, Beauty Pool, ce qui signifie en thérapie, qui a connu deux saisons, diffusées en 2005 et 2008. Vous êtes aussi plus récemment le créateur de la série The Affair, dont Previously s'est déjà fait l'écho. Alors, on sait bien, Monsieur Hagai Lévy, que votre série repose sur une narration sérielle absolument inédite. Chaque épisode suit une et une seule séance de thérapie en quasi-temps réel, 25 minutes, unité de temps et unité de lieu. Voilà le défi que vous avez lancé en redéfinissant aussi la mécanique de diffusion des séries purement dramatiques. Parce que votre création Beauty Pool est programmée quotidiennement, un épisode par jour, du lundi au vendredi, chaque jour étant consacré au même patient. En fait, vous essayez de recréer la consultation hebdomadaire avec vos patients. 21 ans plus tard, Monsieur Hagai Lévy, votre création est toujours adaptée dans de nombreux pays. La plus célèbre étant la version américaine de HBO. Mais il existe aussi une version canadienne, italienne, japonaise, polonaise, roumaine. Et vous vous sentez un petit peu dépassé par cela, ce qui est normal quand on ne s'y attend pas. En 2021, non seulement HBO va lancer une saison 4, le 24 mai prochain, sur la chaîne et la plateforme OCS, mais en plus, une adaptation française vient de voir le jour sur Arte. Monsieur Lévy, vous vous souvenez quand tout a commencé ? Je vous écoute. Au départ, on avait une chaîne câblée et satellite Hot.
Cable channel, because broadcasters...
Et ça ne pouvait être que là, car aucun diffuseur terrestre n'accepterait de la diffuser 5 jours par semaine. Ensuite, j'étais connu pour ce que j'avais fait avant. J'ai fait des soaps. Ils savaient donc que je pouvais faire des choses que le public apprécierait. Alors, je leur ai pitché la série en leur disant « C'est un soap, mais un soap pour gens intelligents, pour des gens qui réfléchissent. » Je leur ai dit aussi que ça allait être bon marché, que ça allait leur coûter pratiquement rien, que je le ferais dans un budget tout petit. Initialement, j'avais 20 000 dollars par épisode, ce qui est vraiment rien du tout. Il y avait 25 épisodes à faire, mais ça reste pas cher. De plus, étant latin, je suis allé en analyse toute ma vie, depuis que je suis enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est très, très important pour moi de montrer comment se déroule un traitement de ce type. Ça n'a jamais été représenté de la bonne manière, même dans Les Sopranos, par exemple. C'est 2 minutes dans chaque épisode. Il n'y a pas la dynamique qui se produit quand tu fais une analyse. Son intensité, ni d'ailleurs le fait que c'est chaque semaine, encore et encore. C'est pour cela que le dernier jour est centré sur le thérapeute ? Oui, parce que la série est centrée sur lui et qu'il était très important pour moi de montrer les coulisses de la thérapie. Ce qui arrive au thérapeute quand il est émotionnellement associé à tous ses patients. Il n'est pas juste assis là, qui somnole un peu, vous voyez, ou je ne sais quoi. Il ressent quelquefois de la colère, mais il ne peut pas en parler. Il ne peut en parler qu'à sa propre thérapeute. C'était donc mon autre volonté, ce que c'est que d'être un thérapeute, et de savoir gérer cette dualité. Il ressent des choses, mais il ne peut pas le dire à son patient. Et ça inclut le fait que ça ne marche pas tout le temps, car dans la première saison, un de ses patients... Enfin, voilà quoi. Oui, oui, c'était très important pour moi de montrer que ce n'est pas toujours réussi, que ce n'est pas une fin heureuse. Bon, on peut dire aussi que 3 sur 4 s'en tirent bien. Monsieur Lévy, notre séance a duré 25 minutes. Je constate que vos épisodes de votre série font aussi une demi-heure. Je n'y vois pas une simple contrainte et encore moins une coïncidence. Vous en pensez quoi ? C'est exactement ça. C'était mon idée initiale. De montrer une séance en temps réel. Bien sûr, il y a du montage. Mais il était important pour moi de montrer le flux de la conversation. Comment elle va d'un sujet à un autre, d'une façon presque insensible. Mais c'est tout de même présent. On ne peut pas faire d'ellipse temporelle. On ne doit pas passer à une autre scène parce que ça gâcherait tout. Parce qu'on serait en droit de se demander si le moment auquel je n'assiste pas ne serait pas le meilleur moment, le moment crucial. Cela vous donne une idée de la réalité et le sentiment que vous n'êtes pas en train de regarder des morceaux choisis. Mais comme la discussion évolue d'un sujet à un autre. Merci, Monsieur Lévy. Nous ferons une autre séance tout à l'heure. Pouvez-vous aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît ? En 2008, 43 nouveaux épisodes qualifiés de « hypnotiques, addictives et irrésistibles » par le New York Times vont être produits et diffusés, mais cette fois-ci par et pour une autre chaîne câblée américaine, celle-ci, HBO. Le titre de la série est « In Treatment », en analyse sur la chaîne OCS. Ici, le psychothérapeute a pour nom Paul Weston et tente, si ce n'est de guérir les névroses de ses patients, au moins de les aider à les vivre sereinement. Mais que se passe-t-il quand un psychothérapeute remet en question ses capacités à soulager l'autre ? Et surtout, s'il ne parvient pas lui-même à régler les remous de sa vie sentimentale et familiale ? Peut-être est-il temps pour Paul de renouer avec son ancienne psy qu'il n'a pas vue depuis 10 ans. Et parce que « En analyse » affiche une première saison de 43 épisodes, là où l'immense majorité des séries HBO compte une douzaine de segments par saison, et dans un paysage télévisuel où les séries comptent rarement plus de 25 épisodes par an, le producteur exécutif Rodrigo Garcia écrit tous les premiers épisodes concernant chaque personnage pour assurer la cohérence narrative. Puis, chacun est ensuite confié à un seul et même scénariste. Tout comme Betty Poole, la série suit les sessions de thérapie de 5 patients, Laura, Alex, Sophie, le couple Jake et Amy, ainsi que les séances de Paul avec sa thérapeute Gina. Paul, c'est Gabriel Byrne, l'acteur révélé dans Usual Suspect et que l'on retrouve récemment dans La Guerre des Mondes. Il a remporté un Golden Globe et a été nominé meilleur acteur aux Emmy Awards pour ce rôle. Laura est en thérapie depuis 1 an. Elle est anesthésiste et souffre d'instabilité amoureuse. Elle hésite à épouser son petit ami, Andrew. Laura est interprétée par Melissa George. Sophie, alias Mia Wasikowska, d'Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton, est une jeune et brillante gymnaste qui vient de subir un accident de vélo. Mais ne serait-ce pas une tentative de suicide ? Jake, Josh Charles, musicien raté, et Amy, interprétée par M. Beth David, indépendante femme d'affaires, ne parviennent plus à sortir leur personnalité antagoniste. Gina, veuve et retraitée, accepte de revenir à la psychothérapie pour traiter Paul, son ancien protégé. Elle est incarnée par Diane West et sa performance dans En analyse lui a valu l'Emmy Award de 2008 de la meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique. Ah, voilà le dernier patient de Paul. Monsieur Underwood, ravi. Entrez. C'est Roman Gita qui vous a rencontré et qui vous a dit de venir, n'est-ce pas ? Vous avez été la vedette 7 années durant de la série de Steven Bochco, La Loi de Los Angeles. Et là, vous êtes Alex, un arrogant pilote de chasse ayant subi une expérience de mort imminente après une opération ratée en Irak. Monsieur Blair Underwood, il semble que vous êtes entré en conflit ouvert avec Paul dès lors que celui-ci a abordé le délicat sujet du père. Je vous écoute. Au départ, j'étais un peu intimidé par la quantité de textes, par le volume des dialogues. Et puis, j'ai comparé cela à jouer dans une pièce de théâtre. Car au fond, c'est une pièce en un acte, mais filmée. D'ailleurs, ça a été mieux. Et j'ai su comment je devais aborder la chose. Comme si je faisais une pièce. La grande différence, c'est que là, je n'ai pas des semaines et des semaines de répétition, comme il y en aurait avec une pièce. À ce titre, cela rend les choses plus délicates. Ça vous oblige simplement à compter plus sur vos partenaires pour que ça fonctionne. Mais vous avez tout de même eu des répétitions avant le tournage. Sans doute pas autant qu'avec une pièce. Des répétitions, oui, oui, on en a eu un peu pour le premier épisode. Pour les premiers épisodes de chaque personnage. En guise de pilote, on a tourné 5 épisodes avec chacun un des personnages. Ensuite, HBO prend 3 ou 4 mois pour décider s'ils vont donner le feu vert à la série. Dès qu'on arrive au deuxième épisode, on n'a plus le temps de répéter. Et cela pour toute la durée de la série. Et vous avez tourné tous vos épisodes à la suite ? Non, non, pas à la suite. On a tourné dans l'ordre de diffusion. Donc ça me prenait 2 jours pour mon épisode. Je tourne donc l'épisode avec mon personnage qui diffusait le mardi aux États-Unis. Puis je m'en vais pour une semaine et demie pendant que Gabriel tourne les autres épisodes et je reviens pour un épisode suivant alors que lui se remet à peine des épisodes déjà en boîte. Ça a donc été un énorme travail pour Gabriel et ça a été très difficile pour moi de faire face. Monsieur Underwood, vous vous souvenez cependant être intervenu dans les épisodes d'un autre patient de Paul Weston, de Laura, qui venait habituellement le voir le lundi. Mais avez-vous aussi été en contact avec mon autre patient à moi, Monsieur Agai Levy? Oui, oui, il est venu sur le tournage. Il est venu une semaine à Los Angeles. Je l'ai revu ensuite à des discussions et à des panels. Mais c'était super de l'avoir sur le tournage. J'avais tellement de questions à lui poser sur les origines de la série, d'où c'était venu, comment c'était fait. Pour en revenir au personnage israélien, j'ai vu le premier épisode de la série d'origine avant d'accepter le rôle. Je ne voulais pas voir le reste avant d'avoir terminé de mon côté. Mais dès que j'ai eu terminé mon dernier épisode, j'y suis revenu et j'ai regardé le reste de la série pour voir comment ça s'articulait. Les arches narratives sont très très similaires, mais cela va dans des directions différentes. Monsieur Blair Underwood, je vais maintenant aborder un souvenir qui pourrait être pénible. Votre personnage, Alex, finit-il comme le personnage de la série israélienne ? Oui, oui, c'est la même chose. Il meurt. Mais on ne sait pas comment il est mort. En d'autres termes, si c'est un suicide ou si c'est un accident. Et nous ne répondons pas à cette question. Et vous avez une réponse ? Moi, j'ai une réponse. Pour moi, il s'est suicidé. Pourquoi ? Parce que je pense que... la notion qui consiste à creuser dans ses émotions profondes et dans son cas, dans ses émois refoulés, est contre-productif à son travail de pilote, à son statut d'être humain, de père et de mari. Et je pense que cela lui a occasionné trop de souffrance. Vous savez, de découvrir des facettes de soi-même, des parties de sa relation avec sa femme, avec son fils et surtout avec son père, cela l'a blessé. Et cela l'a sorti du jeu. Il n'était plus qu'une moitié de pilote. Il ressentait qu'il n'était plus qu'un demi-pilote, qu'il n'était plus celui qu'il était avant de faire face à toutes ses émotions et par ses divergentes. Bien, je pense que nous allons finir pour aujourd'hui. Voilà, merci Monsieur Blair Underwood et merci à Roman Egita pour vous avoir parlé. Monsieur Levy, vous pouvez revenir. Monsieur Agag Levy, je viens de m'entretenir avec un des principaux interprètes de l'adaptation américaine de votre série Beauty Pool. Alors, ce n'est pas étonnant si une chaîne comme HBO soit intéressée par une série comme celle-ci, innovante et originale, et qui plus est, pas très coûteuse à produire. Mais il m'a dit, et j'étais assez surpris d'entendre ça, que vous ne vous êtes pas contenté de leur céder le format, mais vous êtes venu dans la production et sur le tournage. Vous êtes impliqué dans cette version. C'est cela. Je vous écoute. Oui, c'était assez étonnant, car j'ai toujours pensé qu'ils allaient se contenter de me donner de l'argent et c'est tout. J'étais persuadé que ça allait être comme ça, je m'y étais préparé. Je me suis dit, ok, ils vont me donner beaucoup d'argent et je ne serai pas impliqué. Mais en fait, ils m'ont demandé d'être présent et de les aider en tant que consultant durant toute la production. Durant la saison 2, j'ai même réalisé des épisodes. Et je suis allé à New York pendant 4 ou 5 mois avec toute l'équipe. Ouais, c'était vraiment surprenant et encourageant de les entendre dire « On veut que vous joigniez à nous ». Et justement, en saison 2, l'amour de Paul Weston pour sa patiente Laura, bien que non consommée, lui a coûté son épouse, Kate, qui a divorcé. Il s'est installé non plus à Washington, mais à New York, dans le quartier de Brooklyn. Il ne revient à Washington que pour rendre visite à ses enfants et continuer sa propre thérapie auprès de Gina Toole, à savoir Diane West. De plus, le père d'Alex, le vétéran d'Irak dont Blair Underwood vient de nous parler, poursuit Paul en justice. Les nouveaux patients de Paul sont Mia, interprétée par Hope Davis. C'est une avocate qui a déjà été sa patiente, voici 20 ans, et elle est rongée par ses échecs sentimentaux et est en mal de maternité. April, incarnée par Alison Pill, qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle a grandi aux côtés d'un frère autiste qui a accaparé l'attention de ses parents. Oliver, incarné par Aaron Shaw, a 12 ans. Il compense le choc de la séparation de ses parents en se jetant sur la nourriture. Walter, lui, est PDG d'une multinationale, sous le feu d'un scandale commercial. Il est interprété par John Mahoney, le père de Frasier dans la sitcom du même nom. Ah, voilà Monsieur Barclay. C'est son heure. Monsieur Lévy, vous pouvez revenir un tout petit peu plus tard encore ? Merci. Monsieur Barclay, bonjour. Ah non, non, je vous demande de laisser votre Emmy Award dehors, s'il vous plaît. Entrez. Monsieur Paris Barclay, vous êtes un des noms des plus prestigieux de la télévision américaine. Des experts à Cold Case, de The Shield à Lost, de Dr. House à Urgence, en passant par La Maison Blanche, mais aussi Scandal, Empire, Son of Anarchy, Station 19. Vous êtes réalisateur, derrière les caméras, de quasiment toutes les grandes séries. Et s'il y a une prépondérance du dialogue dans la série In Treatment, par touche subtile, un changement d'axe ou un léger mouvement de caméra qui fait basculer les rapports entre les personnages, des dialogues hors champ, etc., votre tâche de réalisateur est de transformer les sessions de thérapie en thriller psychologique ultra tendu. Après avoir dirigé 12 épisodes de la saison 1, sous la férule de Rodrigo Garcia, vous en êtes aujourd'hui, Paris Barclay, le réalisateur en chef. Vous avez mis en scène 11 segments de la saison 2, et vous êtes devenu producteur exécutif. Oui, j'ai une plus grande responsabilité maintenant sur In Treatment. Non seulement je réalise presque la moitié des épisodes, mais je supervise tous les autres réalisateurs et je m'assure qu'ils gardent un style constant durant toute la série. Ce qui n'est pas une chose très facile, parce que moi je n'aime pas dire à un réalisateur comment il doit réaliser. Alors pendant la période de préparation, j'essaie de leur donner un maximum d'informations afin qu'ils puissent y aller en faisant quelque chose qui ressemble au reste de la série. Mais en même temps, j'aime bien qu'ils apportent un petit quelque chose d'original. Je dois donc leur laisser de la liberté. Une partie de mes responsabilités consiste à dénicher le bon réalisateur pour In Treatment. Et c'est très difficile de trouver un réalisateur qui puisse mettre en scène ce genre de travail minimaliste et reposant surtout sur la performance des interprètes. Je croyais que ça allait être simple, mais en réalité, je me suis rendu compte que c'était le type de personne le plus difficile à trouver. Et il y a des choses qu'une caméra peut faire qui sont très subtiles, très très petites, mais qui aident à souligner les moments dramatiques de la série. Par exemple, nous faisons les zooms avant les plus lents du monde. Dans In Treatment, on a des zooms qui durent 5 minutes. Vous ne les remarquerez pas à chaque fois, mais lentement, lentement, on s'approche du personnage. Alors, quand on passe sur Gabriel et que l'on repasse sur le patient, on est de plus en plus près au fur et à mesure. Quelquefois, on fait un déplacement qui lui aussi est très lent. Et quelquefois, on fait un mouvement très rapide pour se retrouver derrière le personnage, donc avoir l'autre côté des choses. Ces moments sont choisis pour être des marqueurs. Ils sont là pour souligner un moment dramatique, soit pour changer de rythme, soit pour définir un nouvel acte. Et de décider quand ces marqueurs doivent se faire est quelque chose de très complexe. Et même si c'est très léger, même si c'est un peu comme un tableau de Vermeer par opposition à ces grands tableaux modernistes où l'on peut faire exploser les traits, comme avec Son of Anarchy. Monsieur Barclay, mon autre patient, Monsieur Underwood, nous a un peu parlé des conditions de tournage de votre série. Pourriez-vous les décrire de façon un petit peu plus précise pour nous, s'il vous plaît ? Je vous écoute. Les scripts d'In Treatment ne font entre 20 et 22 pages. Mais on a une séance de répétition de 2 ou 3 heures au début de l'épisode, ce qui est énorme pour une série télé habituelle. On s'assoit avec les acteurs qui ne sont pas encore maquillés, le réalisateur qui est encore dans sa tenue tranquille, et on discute, on lit le script en entier, on en parle, on répète des scènes, on modifie certains dialogues qui à notre avis ne conviennent pas. Et plusieurs fois on se lève et on fait les mouvements, les pas, ce genre de choses. Il arrive même quelquefois de faire venir toute l'équipe et de jouer l'épisode tout entier devant eux, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. C'est vraiment beaucoup Gabriel qui peut ainsi voir la performance des autres. Monsieur Barclay, la saison 3 de In Treatment, en 2010, compte 28 épisodes, et c'est la première à ne pas s'inspirer des scénarios de la série israélienne Betty Pool. Pour cause, la série d'origine n'a duré que seulement 2 saisons. Ça fait une énorme différence pour les scénaristes. Anna Epstein et Dan Futterman. Dan Futterman a été nominé aux Oscars pour le scénario de Capote. Et il est marié avec Anna Epstein, qui a écrit des séries comme Homicide avant d'être marié à lui. Ils ont travaillé pendant 7 mois à préparer les scripts en travaillant avec des scénaristes individuels pour chaque histoire. Ils ont établi chaque histoire du début à la fin et tout cela leur a pris 7 mois avant même que la production ne démarre pour tout écrire. Parce que cela, justement, il n'y avait pas les scénarios de la série israélienne sur lesquels on pouvait se reposer. Donc pour eux, c'était très difficile, car ils savaient qu'on allait les juger là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur les 3 saisons et celle-ci est la meilleure. Je ne dis pas cela parce qu'ils n'avaient pas la version israélienne, mais parce que je pense que leurs histoires originales sont les plus bouleversantes et que pour la première fois, elles ont du suspense. Il y a une histoire dans cette série qui me terrifie, avec une intrigue absolument mystérieuse qui n'a jamais été vue auparavant, avec une menace, une vraie menace physique et émotionnelle envers un de nos personnages, ce qui est inhabituel. Il y a donc 3 nouveaux patients cette saison. Frances, interprétée par Debra Winger, c'est une actrice célèbre qui souffre de brutales pertes de mémoire lors des répétitions de sa nouvelle pièce. Il y a Sunil, interprétée par Ifran Khan, qui est veuf et qui n'arrive plus à vivre, ni même à parler à ses proches. Et il y a Jessie, interprétée par Dan Dehan, qui, à 16 ans, a du mal à vivre son homosexualité et vient entrer en contact avec une personne qui pourrait bien être sa mère biologique. Et Paul, lui-même, fait face à une toute nouvelle analyste, Adele, interprétée par Amy Ryan. En effet, des tremblements de la main lui font craindre les débuts d'une maladie de Parkinson, un mal qui a emporté son père. Monsieur Barclay, je vous écoute. Une des choses que j'apprécie en étant producteur de In Treatment, c'est de connaître ce qui va arriver du début à la fin. Mais Gabriel Byrne, lui, ne veut pas qu'on lui dise ce qui va arriver au-delà de l'épisode qu'il fait. Il ne veut pas connaître l'arche globale de l'histoire. Il veut simplement savoir ce qui sera filmé au jour le jour. Il ne veut savoir que ce que le personnage fait ce jour-là et pas où va l'histoire, ni quel est le vrai problème du personnage. Ça ne l'intéresse pas. Il est dans le moment, ce qui est génial pour être capable de réagir à ce qui est dit. Mais moi, si j'étais acteur, je voudrais vraiment savoir si cette personne en face de moi est dingue et si elle a l'intention de me tuer. Ah, oups, désolé du spoil. Et ils vont faire quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, hein. Mais lui, il ne veut pas le savoir. Il se maintient dans l'ignorance, il aime plutôt ça. Il ne gère que ce qui se passe dans la pièce, ce jour-là, à ce moment-là. Merci, Monsieur Barclay. On se retrouve bientôt.
Great to see you.
Great to see you.
Thank you.
Alors, Monsieur Hagaim Levy, cette année, HBO a produit une nouvelle saison de In Treatment qui sera diffusée à partir du 24 mai sur OCS City, les lundis et mardis soirs. D'ailleurs, on peut retrouver aussi sur OCS les 3 précédentes saisons. Là, nous serons avec la docteure Brooke Taylor, incarnée par Uzo Aduba, une actrice qu'on a vue dans Orange is the New Black et dans Mrs. America. Et bien sûr, cette nouvelle saison qui se déroule de nos jours à Los Angeles aura pour toile de fond des problèmes contemporains comme la pandémie. Parmi les patients de la docteure Taylor, il y a Eladio, interprété par Anthony Ramos, qui est aide à domicile auprès du fils d'une riche famille. Il y a Colin, interprété par John Benjamin Hackney, qui vient tout juste de sortir de prison. Et il y a Layla, une ado qui se rebelle contre sa famille. Elle est incarnée par Quintessa Swindle. Rita, qui est la confidente du docteur Taylor et qui est interprétée par Lisa Colon-Sayas, fait aussi partie de la distribution. Et c'est Joel Kinnaman qui incarne le petit ami occasionnel et parfaitement toxique du docteur. Monsieur Hagaim Levy, votre série continue d'être adaptée encore à notre époque, pour toutes les raisons que vous nous avez déjà expliquées. Souhaitez-vous garder la main mise sur toutes ces versions et qu'elles collent le plus possible à celles que vous avez écrites ? Je vous écoute. Au contraire, j'encourage tous ceux qui adaptent la série à faire de vrais changements afin de l'adapter culturellement et pas simplement de la traduire. C'est très important pour moi que ça ne reste pas une série israélienne. Mais que, ailleurs, ça devienne une série française.
feel like it's an original series.
Certaines choses doivent être modifiées dans le but que les spectateurs français la perçoivent comme s'il s'agissait d'une série originale. Et ça a demandé beaucoup de discussions avec les États-Unis. Comme avec la saison 2, par exemple, nous avons fait des changements afin que cela devienne une série américaine et non une adaptation ni une traduction. Et je pense que ça fonctionne bien mieux comme ça. Parce que c'est comme ça que ça devrait être. C'est une vraie satisfaction de voir tout ça évoluer. Comme si cela avait sa vie propre dans des endroits différents. C'est vraiment fascinant. Il y a des mois, j'ai regardé la version serbe. Je n'en comprends pas un mot, mais je vois les personnages, la direction artistique et les échanges. Et c'est à chaque fois proche et éloigné. C'est fascinant. C'est fascinant de penser que tant de personnes dans le monde entier se retrouvent dans vos personnages. Oui, mais il ne s'agit pas de mes personnages. C'est aussi le concept de guérir par la conversation qui est important pour moi. Monsieur Lévy, je pense que nous avons beaucoup progressé aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques mois, si cela vous convient.
Thank you.
Mes prochains patients vont arriver. Ah, ça y est, les voilà. David, Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors, David Elkheim, Vincent Pomiero, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous connais depuis quelques années. Vous êtes les créateurs et scénaristes d'une formidable série qui a fait date, Ainsi soit-il, qui se déroulait dans le monde de la religion catholique et plongeait dans l'esprit des prêtres en devenir. Maintenant, vous avez décidé de plonger dans la tête d'Ariane, une chirurgienne en plein désarroi amoureux, interprétée par Mélanie Thierry, d'un couple en crise, Léonora et Damien, incarnés par Clémence Poésy et Pio Marmaï, d'une ado tendance suicidaire, Camille, interprétée par Céleste Brucknell, et d'Adèle, un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan, à savoir Reda Kateb. Tout ça avec le psy Philippe Dayan, interprété par Frédéric Pierrot, qui se confie lui aussi en fin de semaine à son ancienne analyste Esther, interprétée par Carole Bouquet. Alors des personnages qui sont les équivalents de Laura, Sophie, Jake et Amy, ceux de la première saison de Beauty Pool et de In Treatment. Et comme Agaï Lévy vient de nous le dire, il incite les scénaristes à adapter sa série à leur façon, avec leur envie et leur thème à eux. En 2009, il a été question d'une adaptation française, déjà, de la série. Et un pilote aurait été tourné, moi j'en ai pas trouvé trace, mais enfin, un pilote aurait été tourné par Diane Curis. Vous, c'est en 2016 que le travail sur la série a commencé.
Pour revenir, effectivement, on avait déjà eu vent, et même on avait été contacté pour écrire l'adaptation, je sais plus si c'était en 2009.
C'était après Ainsi soit-il, donc ça devait être autour de 2012, je pense, 2012-2013.
Voilà, on avait été...
Peut-être un projet ultérieur, enfin intermédiaire, entre les... Voilà, parce que je pense qu'on nous a dit que le projet avait beaucoup tourné dans les prods et chez les diffuseurs, en 10 ans.
La personne qui nous l'avait proposé a disparu du jour au lendemain et voilà, donc on n'a plus eu vent de ce projet jusqu'à ce que effectivement Eric et Olivier viennent nous avec Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Laetitia Gonzalez et Yael Fogiel, les productrices, viennent nous chercher, Vincent et moi, pour adapter Beauty Pool, effectivement, la série de Haggai. C'est vrai que la série de Haggai est un objet structurel assez extraordinaire, en fait. Donc c'est un objet structurel assez formidable qui n'est pas uniquement une belle forme. Hein, il ne s'agit pas de faire une forme intéressante. Il s'agit pour Haggai Lévy, en tout cas, quand il imagine cet objet-là, à travers les paroles de ces, enfin à travers le dialogue qu'entretient ce psychanalyste avec ses patients et avec sa contrôleuse, c'est évidemment de rendre compte comme ça de l'état de crise évidemment d'un pays. Donc en l'occurrence Israël et puis tous les pays où la série a été adaptée. Et donc en France, oui, il s'agissait aussi pour nous de trouver le bon moyen d'adapter, donc de s'emparer effectivement de de l'objet structurel fabriqué par Haggai pour raconter la France, en fait.
Et vous, c'est le massacre du Bataclan qui a été le détonateur. C'est ce choix-là qui part du principe que pour chaque personnage, cela va avoir une influence, parce que ce n'est pas une série sur les attentats. C'est une série sur leurs conséquences sur 5 personnages, en fait.
Disons que, voilà, après notre goût pour le dispositif narratif absolument incroyable, ultra sériel, parce que c'était une façon de réinventer un format sériel qui, avec à la fois 5 épisodes par semaine et en même temps un grand surépisode d'une semaine qui fait 5 épisodes aussi, et voilà, qui est récurrent et où à partir du 6e, effectivement, nous, spectateurs, on sait tout et donc on se met aussi à se projeter naturellement dans la tête du psy maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans la tête. Et donc voilà, cette espèce de dispositif génial. Finalement, au début, nous, au départ, on n'était pas super pour l'adapter en France parce que on se disait à quoi bon refaire une énième adaptation d'un format extraordinaire mais qui sera forcément moins bien s'il est décalqué à l'identique. Et évidemment, c'est uniquement en discutant avec Eric Olivier quand cette idée a jailli de parler spécifiquement de la situation à Paris après les attentats que on s'est senti réellement accroché, voire même presque obligé de faire la série. C'est-à-dire que il s'agissait pas juste de poser une grille aussi intelligente soit-elle et telle que Haggai l'avait inventée sur la société française de manière un peu générique comme les autres séries l'avaient fait. Là, il s'agissait vraiment de bouger quelque chose. Et d'ailleurs, en suivant effectivement l'injonction de Haggai, adapter vraiment de s'en servir pour le coup pour raconter ce qui change un tout petit peu thématiquement la série. C'est-à-dire que le déclencheur externe extrêmement fort des attentats concerne effectivement tous les patients et le psy lui-même. Et d'ailleurs, par ailleurs aussi, l'environnement immédiat du cabinet, puisque l'attentat a eu lieu en bas de la rue, on va dire, quoi. Donc finalement, ça se met à raconter...
Parmi les personnages, il y en a un qui est vraiment le plus fort vis-à-vis de ça, c'est le personnage d'Adèle, c'est le flic de la BRI, parce que lui, non seulement il a eu des conséquences psychologiques, tout comme tous les Français à l'époque, etc., mais lui, il l'a vécu, et ça a fait ressurgir d'autres choses. Donc est-ce que pour vous, le personnage d'Adèle, donc dans les précédentes versions, à savoir le flic, etc., mais est-ce que c'est le personnage un peu clé de votre version à vous ?
Oui, alors on peut dire ça, effectivement. C'est vrai que ce personnage-là, qui était le plus, on va dire, le moins évident à adapter tel quel en partant de la série originale, c'est-à-dire que c'est un pilote de chasse qui bombarde... qui bombarde une école, c'est ça. Alors dans la version américaine, je crois que c'est un hôpital, mais dans la version donc une école à Ramallah effectivement ce personnage était pas évident à adapter tel quel dans la série pour nous, et il a fallu imaginer comment ce personnage pouvait être en même temps considéré comme un héros, puisque les pilotes de chasse en Israël sont quand même parmi les dans l'armée, en tout cas, on va dire les plus représentatifs de l'armée. Nous, il s'agissait vraiment de trouver la bonne entrée pour raconter un personnage héroïque et en même temps traumatisé. Et donc c'est vrai que quand on a pensé au post-attentat Bataclan, on a trouvé de façon évidente que ce personnage-là, en fait, c'était un agent de la BRI qui était rentré au Bataclan pour sauver des gens, et voilà, le massacre fait ressurgir en lui des choses un peu plus profondes, cachées, enterrées, et évidemment. Ça a des résonances avec qui ont aussi d'ailleurs des résonances avec l'histoire de notre pays, hein, la France.
C'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est parce que en ayant vu la série, c'est quand même le personnage à travers lequel il y a le plus de choses qui sortent quand même sur notre société. C'est lui qui rejette complètement la société, qui s'adresse aux psys comme à d'autres en disant « De toute façon, vous êtes là, vous acceptez tout, moi je refuse tout, etc. » Enfin, il a pété les plombs, mais quelque part, c'est un peu le reflet de toute la société française qui aussi a pété les plombs suite aux attentats du 15... Alors, j'y vais peut-être un peu fort, là, mais je ne sais pas, c'est vous les auteurs.
Bon, on peut... C'est complexe. Il est le reflet de... Alors après, moi, je dois dire aussi que chacun des personnages, une fois qu'on l'a plongé dans le bain de l'adaptation, représente quelque chose qui peut refléter une partie de nos affects de l'après 13 novembre. C'est-à-dire que... on n'a pas tous été affectés au même endroit, on n'a pas eu le même degré de proximité avec les attentats, et on ne s'est pas confronté avec les mêmes personnes interprétant de la même manière les attentats. Donc l'idée, c'est que pour nous, Céleste, qui avec ce génie de l'adolescence est beaucoup plus préoccupée de son drame propre que des attentats, et qui par ailleurs va faire un chemin pour à la fin justement s'ouvrir au monde et s'apercevoir qu'il y a un monde et aller déposer aussi sa gerbe sur les dans les mémorials spontanés des attentats, elle fait un parcours aussi important d'une certaine façon, de même d'ailleurs que ce couple en crise qui est impacté très latéralement, pense-t-il, par les attentats, etc. C'est-à-dire avec cette idée aussi que finalement et comme d'ailleurs à un moment donné de manière plus ou moins maladroite d'ailleurs le défend face à sa femme et à sa contrôleuse, sans le savoir, on a tous été impactés par, le signifiant guerrier qui a fait effraction dans notre réalité au moment des attentats. Et d'une certaine façon, ça nous a tous renvoyés à nos propres guerres intérieures, on va dire. Donc, pour ça, évidemment, Adèle, il représente un endroit très spécifique. Et la guerre auquel le renvoie son propre trauma intérieur, sa propre guerre, fait écho à un événement qui est à la fois essentiel dans l'histoire de la France, puisqu'il est essentiel dans l'imaginaire de beaucoup de Français issus de l'immigration, on va dire. Et d'ailleurs, finalement, grâce à Adèle, Philippe d'ailleurs lui-même prend conscience que lui-même a une histoire historique et qu'il a un passé des origines chargées, et qu'il est aussi renvoyé par cet événement-là à son histoire, son propre lien avec ses origines culturelles, voire même son propre lien avec l'inconscient français sur la question des origines, des Arabes, etc., etc., de la violence. Bref, toutes ces diffractions sont là pour nous raconter à quel point la société française est plurielle et qu'elle est pluriellement impactée, mais aussi pour faire tenir tous ces discours ensemble, parce que la France, au sens de... C'est l'ensemble de nos traumas individuels, on va dire, qui la constitue. Et non pas une seule version de l'histoire, on va dire, pour être plus net.
C'est pour ça qu'en effet, le scénario de base est absolument d'une richesse incroyable, parce qu'on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut. On arrive en semaine 6, on approche de la fin, donc il y a une montée dramatique vers le season finale.
Oui, alors c'est vrai que bon, c'est une adaptation, c'est vrai que la série originelle fonctionne extrêmement bien, et c'est vrai qu'avec Vincent, nous on apprécie énormément les objets sériels et la dramaturgie sérielle. C'est-à-dire cette idée que d'une part, chaque épisode, que ce soit sur En Thérapie, mais sur les séries aussi qu'on regarde en tant que spectateur, chaque épisode est une unité en soi. Mais évidemment, comme il y a aussi du feuilleton dans la série, eh bien que chaque épisode est un morceau d'une longue histoire qui se raconte sur 12 voire 24 épisodes en fait. Hein. Et c'est vrai que bon, cette dramaturgie feuilletonnante, elle fonctionne peu ou prou comme un récit dans lequel il va y avoir, même si on sait qu'il y aura peut-être une autre saison, dans lequel il va y avoir un aboutissement de quelque chose. Donc c'est vrai que la dramaturgie, et là c'est la dramaturgie du long métrage, nous apprend que on a avant le dernier acte, on a effectivement quelque chose qui doit péter, qui doit, un climax.
Ah ouais, 5 fois de suite, là vous avez fait fort quand même, c'est pas mal je trouve.
Et donc c'est vrai que, mais en fait c'est les objets qu'on apprécie nous aussi en fait, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'on les reproduit tels quels ou pas, en tout cas on a ce goût.
Après on peut dire aussi que dans ce cas-là, comme chacun des patients est aussi le reflet des tourments intérieurs du psy, et que d'une certaine manière, inconsciemment, ses propres troubles provoquent des choses, bien qu'il essaie toutes ses forces de s'intéresser vraiment à eux et rien qu'à eux, ses propres troubles provoquent des... On peut dire que la semaine 6 est une longue explosion dans le parcours intérieur du psy. Donc il y a une cohérence aussi dans la courbe saisonnale, parce que c'est bien à lui, à sa figure à lui, que tout ça pète en vérité. Et donc c'est une suite de gifles, ou en tout cas de moments critiques qu'il doit gérer, mais peut-être aussi parce que c'est lui qui les a d'une certaine façon provoqués.
Vous avez travaillé sur cette série avec 3 co-scénaristes, et a priori, chacun des scénaristes a son personnage. Alexandre Manville, Pauline Guéna et Nassim Mehta. C'est très inhabituel, ça. C'est chacun sa série, c'est chacun ses épisodes, chacun son personnage, et vous coordonnez tout ça ensemble. Je caricature sûrement un peu, je suppose que c'était pas comme ça.
Bah, en fait, c'est surtout qu'on a d'abord travaillé avec eux, en atelier, en fait. On a énormément travaillé avec eux en atelier. Même le début de l'atelier, aucun d'eux n'avait choisi de personnage. Il s'agissait vraiment de rentrer dans la structure de la série, dans son ensemble, de comprendre le parcours émotionnel de chaque personnage, que ce soit les patients, que ce soit Philippe Dayan, la contrôleuse, vraiment d'avoir quelque chose pour que tout le monde soit au courant de l'objet et de tous les détails de l'objet. Et ensuite, une fois qu'on avait nous qu'on a ensemble, sous notre direction, tracer les grandes lignes, et parfois de façon assez précise, on a effectivement demandé à chacun de nos scénaristes de choisir un personnage, parce que ça nous semblait, alors déjà je pense que c'est ce qui a été fait sur la série originelle, mais je pense aussi, non, c'est pour les réalisateurs qui l'ont fait.
Chagaï avait déjà fait ça. On s'est inspiré aussi du fait que Chagaï lui-même avait partagé, enfin en tout cas l'équipe d'écriture de Chagaï, ils partageaient les personnages en fait. Mais en fait, déjà on avait écrit nous les 5 premiers épisodes, donc on avait posé les bases de tous les personnages. Et de leur style, on va dire, au sens même de leur style inconscient, on va dire. Et donc il s'agissait de traverser ça avec nos camarades. On les a demandé ensuite, et il nous semblait ensuite plus cohérent, effectivement, plutôt qu'ils prennent chacun une semaine, qu'ils suivent une ligne de personnages, on va dire. Sachant que nous, on avait garant là-dedans aussi, alors que eux pouvaient à la limite s'identifier ou prendre soin du patient. Nous, on prenait soin du psy, on va dire, en suivant l'ensemble. Donc voilà, c'était une façon pour eux de suivre la continuité d'une thérapie, et donc de suivre cet épisode de la semaine du point de vue du parcours du patient. Et nous, on était là pour les accompagner là-dedans, mais aussi pour faire la continuité, épisode après épisode, de Dayan.
Pour conclure sur En Thérapie, qui est quand même un objet sériel, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début de ce podcast, assez incroyable, c'est quand même une série qui repose avant tout sur le scénario et sur les dialogues. Je veux dire, là, il n'y a pas d'échappatoire possible. Il n'y a pas de scène extérieure, de choses comme ça. Il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. Il n'y a pas de possibilité de faire des séquences de spectacle ou quoi que ce soit. Tout repose sur chaque phrase de dialogue, chaque geste, chaque regard, et ainsi de suite. C'est la structure de 24 heures chrono avec les dialogues de la loi de Los Angeles, quoi, ou de History Blues, pour simplifier un peu.
Nous, on préfère parler de dramaturgie de la parole.
C'est beaucoup mieux résumé que moi.
Et parce que le conflit repose sur ce qui doit, peut, va ou pas être dit. Et en ça, on aime bien dire qu'on a une tradition sérielle très forte là-dessus, mais aussi une vieille tradition dramaturgique, C'est-à-dire que la dramaturgie de la parole, c'est par essence celle qu'on trouve dans les pièces de Racine. Vraiment, la question de ce qui se passe est liée à ce que le personnage va être capable ou pas de dire et à l'effet que va avoir sa parole. Et ben, en fait, évidemment, dans une séance de psy, ce qui est réellement dramatisé, ce qui est réellement en jeu, c'est ce que on va pouvoir dire ou pas, à ce qu'on va savoir dire ou pas, qu'on va oser dire ou pas. Donc voilà, on a été logique et cohérent avec ça. Mais je devrais dire quand même aussi que ça ne repose pas que là-dessus, ça repose quand même aussi sur la capacité des comédiens à s'emparer de ces mots-là.
Bien sûr.
Et la capacité, évidemment, des réalisateurs. Il y en a eu plusieurs aussi, il y a tout un groupe, qui ont suivi eux-mêmes les patients individuellement, les capacités de ces réalisateurs-là à saisir ces corps habités par la parole, on va dire.
David, Vincent, je ne vais pas vous dire que je vous revois à la prochaine séance. Moi, je vous reverrai à la prochaine série. Bravo encore pour ce projet. Bravo encore pour cette adaptation qui est absolument exceptionnelle.
Merci.
Réellement, je pèse mes mots. Et qui nous a incité à faire ce long podcast dans lequel, justement, on brasse un peu toutes ces idées et on brasse un peu toutes ces versions. Mais je pense que c'était absolument fascinant. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine série que vous ferez. Parce que je serai là.
Ça devrait pas tarder.
Cool. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, merci encore et à très bientôt.
Très bien. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
En thérapie de David Elkaïm et Vincent Pomiro, c'est sur arte.tv. In Treatment, c'est sur OCS Go. De la saison 1 à bientôt la saison 4. Moi, je vous retrouve sur le canapé de Previously la semaine prochaine pour notre 99e séance. On y parlera d'un petit garçon, d'un gros chien des Pyrénées et d'un poney. Je vous laisse deviner. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.